Bonsoir. Ici la pleine lune, Radio Zone. Nous avons eu quelques petits problèmes techniques, comme d'habitude. Mais ça y est, cette fois, on démarre et on espère que vous nous entendez bien. Ce soir, nous allons surtout parler du Nicaragua et des Indiens Miskito avec Catherine, une amie qui a vécu presque 2 ans là-bas et qui va un peu nous raconter ce qu'elle a vécu. Mais tout d'abord, quelques petites informations. Samedi, à la rue Gourgas, cet immeuble occupé dont, vous le savez peut-être, le toit a été retiré par une entreprise de démolition pour hâter le départ des occupants et la démolition de l'immeuble. Les occupants de la rue Gourgas organisent une petite fête dès 14h30 à la rue Gourgas, donc dans cet immeuble qui donne sur la plaine de Plainpalais. Et au cours de cette fête, sera procédé à la reconstruction du toit. Venez donc tous nombreux et nombreuses à la rue Gourgas, samedi, dès 14h30. Ensuite, une petite information concernant le comité contre le viol. Suite à l'affaire des viols de la rue Prénavy, comme nous l'avons déjà dit sur cette antenne plusieurs fois, les deux femmes victimes de viol ont été convoquées par le juge d'instruction au sujet des graffitis opposés sur les maisons des violeurs de la bande des pharaons. Elles ont refusé une première fois de se rendre à cette convocation, mais ont été reconvoquées par Madame la juge Barbet, malgré une conférence de presse et une lettre signée par plus de 200 femmes. Pour organiser la riposte à ces mesures de pression absolument inadmissibles contre des femmes qui ont subi un viol, une réunion est convoquée le jeudi 1er avril à 20h30, au centre de loisirs des Paquis, 50 rue de Berne. Vendredi 2 avril, au centre Femmes, il y aura une animation par le groupe Vanifraise avec un spectacle par Marthe et Elodie, Guest Stars. Donc vendredi 2 avril, à 8h30, au centre Femmes, il y aura un spectacle fait par 2 femmes et dès 23h, on pourra danser. Enfin, concernant le Salvador, nous vous rappelons 2 manifestations qui ont lieu samedi, 3 avril, à Genève. Il y a un meeting de solidarité avec le Salvador qui s'appelle 9h pour le Salvador, le Guatemala et le Nicaragua, avec des tables rondes, avec de la musique, avec Yvette Terola. Et puis ensuite aussi, on peut danser dès 23h avec le groupe Ascension. Également samedi, il y aura une manifestation nationale, également pour le Salvador, à 14h15 à Berne. Rendez-vous à côté de la gare à la Neuengasse. Donc, toutes les personnes qui pensent qu'il est très important de manifester précisément ces jours pour le Salvador peuvent se rendre à l'un de ces 2 endroits, à ce meeting de solidarité avec le Salvador à Genève, à la salle de réunion de l'Avanchet Salève, à côté de Valexer, ou à Berne, dès 14h15, à côté de la gare, où il devrait y avoir une grande...
People exist before...
Voilà. Maintenant, nous allons passer au thème principal de la soirée, c'est-à-dire que nous allons commencer à parler du Nicaragua, d'abord un petit peu de musique. Mais il faut brancher là-bas, cassette.
Radio Sandino presenta. La costa atlántica. ¡Presente! Programa noticioso en Miskito, dedicado a nuestro pueblo de la costa atlántica, marginado en más de 45 años por la dictadura somocista. Diariamente estaremos con nuestros hermanos de la costa atlántica en abierto diálogo de acercamiento.
¡Cabo de Ublicanone!
¡Nada!
¡La costa atlántica!
¡Presente!
Buenas noches, queridos radioescuchas. Este Radio Sandino que transmite desde Managua, Nicaragua. Una vez más tenemos el gusto de estar nuevamente con ustedes para hacer llegar hasta sus hogares nuestro programa La Costa Atlántica Presente. Caput de Guajaique Balnavate Guarpuctadica en Namanna Humana de Kiwaina, Adica programa La Costa Atlántica Presente, que dignanan túnicat. Kalpaktik, wanna umana de katia yigna watte galaha yigna wadi kawing muna.
Oh, muy calekra nani. Nasika radio, wawal la sutra nasika radio sandino mana otas vaya vera wina aisisa. Nati mera kli yawan eku kisa, bako se manna ni kumibane, wamtlakat, blikika naha wan programika la costa atlántica presente.
Alors, vous venez d'entendre ici l'introduction de Radio Sandino tous les soirs au Nicaragua de 8h à 9h. Radio Sandino émet en langue miskito et sumo une émission spécialement faite pour les miskito. Vous avez pu observer les deux langues. La première langue, c'était le sumo et la deuxième langue, c'était le miskito et à part ça, évidemment, l'espagnol.
Bon, ben après cette petite entrée en matière, peut-être que Catherine, tu pourrais nous raconter un petit peu comment tu es arrivée chez les Miskito, où tu es restée, où tu as vécu un peu plus qu'une année.
Bien, tout d'abord, je me suis donc engagée dans un projet du front qui était fait donc au nord du pays, chez les Miskito, sur le Rio Coco, qui fait la frontière avec le Honduras. Ces Miskito vivent le long de ce fleuve, en pleine jungle. Pour y arriver, nous avons dû voyager 3 jours avec un bateau à moteur. Mais les Miskito, eux, mettraient 20 jours pour arriver jusqu'à la communauté la plus éloignée qui touchait notre projet, qui s'appelait Haïti.
Et comment ça se fait que tu as eu l'idée d'aller dans un tel coin ?
C'est-à-dire que l'idée me tentait parce que j'ai toujours été sensibilisée aux problèmes indiens et surtout parce que j'avais envie de savoir qu'est-ce que faisait la révolution avec les Indiens dans cette région.
Est-ce que tu peux encore nous dire un petit peu le genre de nature, de climat qu'on trouve là-bas, justement au bord du Rio Coco ?
Eh bien, c'est une brousse, qu'on peut dire, si bien qu'au bord du fleuve, il y a des régions un peu déboisées, c'est-à-dire que les forêts ne sont pas aussi hautes, mais dès qu'on s'éloigne un tout petit peu de la bordure du fleuve, on se retrouve en pleine jungle.
Bon, ben, je propose que maintenant on écoute une chanson en miskito, et puis après on continue à... Tu nous expliqueras un petit peu qui ils sont et leur histoire et tout ça. Mais d'abord, on écoute la chanson.
Miskito naniva, wandara walaya, swaksa kansturkana, painu alivanguaya, wanaisapurara, ai kopia piniva, miskito nisanka, banyam nimuniso. Miskito naniva, wandara walaya, swaksa kansturkana, painu alivanguaya, wanaisapurara, ai kopia piniva. Miskito nesanka, banyam nimunisa.
Wanda ma Ibrahim, pa in casa klukikan, pa mita witinra, sitko i brisata, miskito nanisin, pa in casa klukiva, wana isa purara, yamni wandisana.
Miskito naniva, wantara walaya, swaksaka storkana, pa in wali vanguaya, wana isa purara, ai kupia piniva, miskito nesanka, banyamni munisa.
Wanda ma Ibrahim, kato e aisata, ai waila nanira, sutura luaya, gadmita yawanra, sin baguta kansa, wan waila nanira, sutura luaya.
Miskito naniva, wandara walaya, swaksa kansorkana, pain wali vanguaya, wana isa purara, ai kupia piniva, miskito nesanka, panyam ni munisa.
Wanda ma Ibrahim, katkoi aisata, ai kiam kananiva, ai lalvan talpia, gadmita yawana, sin vakuta kansa, miskito naniva, ai lal sin barasa.
Miskito naniva, wandara walaya, swaksa kans torkana, pai wali vanguaya, wana isa purara, ai kupia piniva, miskito nesanka, panyam ni munisa. Miskito naniva, wandara walaya, swaksa kans torkana, pai wali vanguaya, wana isa purara, ai kupia piniva.
Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson ?
Eh bien, ici, vous avez une chanson en miskito, mais qui est nettement influencée par leur religion, qui est la religion des Moraves, qui est une religion protestante. Et dans cette chanson, ils parlent d'Abraham et des miskito, donc, qui vénèrent Abraham. Ils parlent aussi de leur unité, et, etc. Je pense qu'on va pas...
Et puis, ces miskito dont on a beaucoup entendu parler par la presse ces derniers temps, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est leur histoire, donc par rapport à l'histoire du Nicaragua en général, et comment ils se situent dans l'histoire du Nicaragua ?
Bien, il faut d'abord voir que au Nicaragua, nous avons trois ethnies indiennes, d'origine indienne, qui sont les Sumo, les Rama et les Miskito. En fait, l'origine des Miskito n'est pas tout à fait claire, mais on suppose qu'ils descendent des Indiens Chibcha de Colombie. Donc, ils seraient remontés vers le Nicaragua depuis la Colombie. Et puis, c'était une quinzaine de tribus qui se sont formées de ces Indiens Chibcha. Et 14 de ces tribus sont actuellement les Sumo qui vivent au Nicaragua. Et une des tribus se serait transformée donc en ce qu'on appelle aujourd'hui les Miskito. Depuis le début, les Miskito étaient une peuplade assez guerrière. Ils ont même chassé les Sumo du bord des fleuves les plus fertiles. Et ils se sont eux-mêmes installés sur le Rio Coco et sur 2-3 autres fleuves sur la côte atlantique du Nicaragua. Bien. En plus, on a... Il faut tenir...
Tu peux peut-être raconter un petit peu comment ils se sont situés...
Bon, alors tout au début, il faut dire que les Miskito... Ils avaient des rapports avec les pirates. Ils étaient entrés à faire du commerce avec les pirates, à échanger des choses. Par exemple, ils les approvisionnaient avec des bêtes et ils les échangeaient contre des armes. Et on suppose que le nom Miskito vient de mosquete, qui était l'arme qu'employaient les pirates à cette époque-là, surtout les pirates français, et c'est sur ce nom qu'ils se sont fait connaître à cause de leurs armes qui terrorisaient les autres gens qui vivaient dans la région, donc les autres indigènes. Après, très vite, les Anglais se sont intéressés à la Miskitia, qui était donc la côte atlantique du Nicaragua, et ils en ont fait une colonie. Simplement qu'ils n'ont pas fait comme les Espagnols, ils ne s'y sont pas installés personnellement, sinon que c'est eux qui ont choisi un roi Miskito qu'ils ont fait couronner en Jamaïque et qu'ils ont fait venir au Nicaragua pour gouverner ces Miskito. Pendant plusieurs siècles, ces Miskito ont été gouvernés par ces rois en Miskito et à travers eux, les Anglais dirigeaient cette zone et en retiraient les richesses, surtout de l'or, du bois, etc. Donc toutes les richesses qu'il y avait dans cette zone, il y avait surtout des bois précieux aussi. Ensuite, nous voyons que, à travers l'histoire, en 1890 à peu près, les Espagnols se sont intéressés aussi à la côte atlantique. Les Anglais se sont retirés en laissant la Miskitia comme une terre libre, donc en laissant aux Miskito un gouvernement libre. Mais tout de suite, Zelaya, qui était le gouverneur du Nicaragua, s'est intéressé à cette côte et en a fait un patrimoine espagnol, donc dépendant des Espagnols. Il a annexé de force la Miskitia au Nicaragua. On peut penser que depuis là déjà, les Miskito n'étaient pas en faveur des Espagnols parce qu'ils considéraient les Espagnols comme des occupants, comme des colons, comme leurs exploiteurs. En plus, il faut dire que déjà avant, aux côtés des Anglais, ils ont lutté contre les Espagnols. Ils ont aidé aux Espagnols à attaquer à attaquer les Espagnols, et ils ont également participé aux côtés des Anglais pour écraser des émeutes en Jamaïque. Eux-mêmes n'ont jamais eu l'impression d'être vraiment exploités par les Anglais, étant donné que les Anglais étaient beaucoup plus fins dans leurs relations avec les Indiens. Ils faisaient tout leur rapport à travers les rois Miskito et ne se sont installés que très tard dans ces zones, et employaient généralement pas des Miskito pour les servir, mais des Noirs esclaves qu'ils apportaient de Jamaïque ou d'autres régions. Ce qui explique qu'actuellement, une grande partie aussi de la population de la côte atlantique est formée par les Noirs, des descendants d'esclaves, qu'on appelle les créoles actuellement. Après qu'ils se soient annexés, qu'ils aient été annexés au Nicaragua, donc aux Espagnols, Zelaya ouvre la côte atlantique aux grandes compagnies américaines et commencent à s'installer les grandes compagnies bananières, n'est-ce pas? Et puis, c'est à ce moment-là qu'on commence à exploiter les Miskito, mais d'une manière aussi très subtile, puisque on n'allait pas engager des Miskito dans des entreprises bananières, sinon que ces entreprises engageaient des gens qui allaient acheter les bananes le long du fleuve. Donc ils n'ont pas ressenti directement leur exploitation, sinon qu'ils l'ont plutôt ressenti comme une faveur, parce que ça leur permettait de gagner de l'argent, et avec cet argent, ils pouvaient acheter les premières nécessités, donc le sel, les produits de base, du sel surtout, était très important pour eux à cette époque-là, et toutes sortes d'autres choses comme l'huile, le savon plus tard, etc. Ils ont également installé des compagnies donc, pour exploiter les mines, et on voit que là, la population Miskito a été beaucoup plus consciente, et qu'ils s'étaient même alliés avec le front sandiniste à un certain moment donné, quand les sandinistes étaient mis dans cette région et avaient fait des actions. Il faut aussi parler du moment où Sandino a lutté. Et je pense que pour ça, on va peut-être écouter une chanson sur Sandino.
No mortal se fue, eran 30 con él, se fue, eran 30 con él. Dejar la casa a la milpa es jodido pero es bueno, por pensar hacia Sandino lo llamaron bandolero. Fue su ejército de niños, mujeres y hombres descalzos, quería tanto a mi tierra Nicaragua. Y se fue, eran 30 con él, y se fue, eran 30 con él. Qué linda se ve la compañera haciendo la guardia en el campamento guerrillero. Qué linda se escucha una mazurca bajando los cerros con los clarineros por la madrugada. Qué linda se escucha la Adelita que canta Pedrón con su batallón rumbo a Guaslala. Decían bandolero por mirar al sol de frente, quería tanto a su pueblo, no quería ser presidente. Aprendió de la montaña y de su reino animal que hay que matar la serpiente y su veneno mortal. Se fue, eran 30 con él. Y se fue, eran 30 con él. 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 Se fue, eran 30 con él.
C'est une chanson de Luis Mejía Godoy. Il faut dire que les principaux chanteurs du Nicaragua actuel sont les deux frères Godoy et deux, trois autres chanteurs qui maintenant ont commencé à se développer. Mais vous entendrez, la majeure partie des chansons du Nicaragua que vous entendrez sont de ces deux frères. Je vais vous traduire la chanson. Ils l'ont appelé hors la loi parce qu'il osait regarder le soleil en face. Il aimait tellement son peuple qu'il refusa d'être président. Il avait appris de la forêt et de sa faune qu'il fallait tuer le serpent et son venin mortel. Et il est parti, ils étaient 30 avec lui. Abandonner la maison et les blés, c'est dur, mais juste, pensait Sandino. Et c'est pourquoi il l'appelait hors la loi. Une armée d'enfants, de femmes et d'hommes aux pieds nus. Il aima tant sa terre, tant sa patrie, le Nicaragua. Qu'est-elle donc belle, la compañera, qui fait la garde du camp des guerrieros? Qu'est-elle donc belle, la mazurka, qu'on entend depuis la forêt? Adelita, que chante Pedrón, se dirigeant vers Guaslala. Il faut dire que c'est en 1930, à peu près, et c'est aussi en même temps la révolution du Mexique. Et l'Adelita, c'est une chanson typique de la révolution mexicaine. Vous en avez entendu une partie dans cette chanson. Bien, pour en arriver à Sandino, Sandino a été dans la côte atlantique et il s'est surtout dédié à attaquer les compagnies américaines qui étaient installées sur la côte atlantique. Notamment, il a fait une attaque à la United Fruit. Mais la plupart de ces soldats étaient des Espagnols et n'avaient que très peu de rapport avec les Miskitos à cette époque-là. En plus, ils venaient de la partie espagnole et les Miskitos, il y en a eu qui lui ont aidé, mais étaient surtout ceux de la partie de Jinotega et non de la partie de la côte atlantique, donc du département de Celaya. Une fois qu'il a rendu les armes, parce que Sandino, après un accord qui s'est fait à Managua, a décidé de rendre les armes puisque les Américains ont décidé de quitter le pays, il a été d'accord de rendre les armes et il s'est installé au lieu d'accepter d'être président du Nicaragua, il a préféré aller s'installer au Rio Coco parmi les Indiens Miskito pour former des coopératives. Et actuellement, il y a encore deux ou trois petits vieux qui se souviennent de ces coopératives et qui peuvent nous en parler. Mais la plupart des gens, en fait, ne se souviennent plus très bien et Sandino, pour eux, est un bandolero, comme on appelle dans la chanson, c'est-à-dire était un hors-la-loi. Cette idée a encore été renforcée par la religion morave parce que Sandino a tué par mégarde un missionnaire nord-américain et à ce moment-là, l'église morave a dédié une chanson à ce missionnaire comme héros. Et cette chanson, encore actuellement, est chantée au Nicaragua.
Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est la situation politique des Miskitos actuellement, c'est-à-dire, disons, en prenant la fin du somovisme, la période de la révolution, et ce qui se passe depuis, quelles sont leurs organisations, vous parlez un petit peu de leurs leaders et tout ça.
Bien, alors tout d'abord, j'aimerais parler un tout petit peu encore de ce qui s'est passé avant la chute de Somoza. On peut parler là, donc les Miskitos ont eu face au somozisme une haine parce que c'était encore des colons espagnols, évidemment. Mais en même temps, Somoza, au moment du triomphe de Cuba, a lancé une grande campagne anticommuniste dans tout le Nicaragua et surtout dans la zone de l'Atlantique, donc parmi les indigènes, en leur disant que les communistes allaient venir manger leurs enfants, allaient leur couper les mains, etc., et qu'ils allaient leur empêcher d'aller à leur culte, etc. Et alors, ils ont eu ceci pour justifier le débarquement des troupes américaines qui allaient débarquer justement depuis la côte atlantique pour attaquer Cuba en 61, donc à la fameuse Bahia, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Et alors on arrive au et un peu avant encore, un pasteur morave a fondé une association qu'il a appelée Al Promiso, c'est-à-dire pour le progrès des Sumo, Association pour le progrès des Sumo et des Miskitos. Cette association ne s'est jamais opposée directement au somosisme, sinon qu'elle s'est limitée à quelques revendications. Et par exemple, ils ont fait un magasin autour de Waspan pour que les Miskitos puissent s'approvisionner à des prix relativement bon marché. Au moment du triomphe de la révolution, les sandinistes en général ont été accueillis comme un autre colon. Ils n'ont pas du tout vu dans les sandinistes des révolutionnaires, ni compris le discours des sandinistes qui voulaient faire de cette côte des habitants de plus du Nicaragua révolutionnaire et conscient. Et on a senti depuis le début une certaine méfiance face aux sandinistes. Au niveau donc de cette organisation, Al Promiso, il s'est passé des choses intéressantes. Alors, par exemple, on a vu un des dirigeants du Nicaragua qui Tout d'abord, ils avaient essayé de faire disparaître cette organisation en disant que maintenant, c'était plus nécessaire que les indigènes revendiquent leur identité, puisque les révolutionnaires, de toute façon, allaient les intégrer, ils allaient pouvoir participer. Mais les indigènes n'étant pas de cet avis, et surtout les dirigeants de Alpromisso, alors il en est arrivé à une discussion avec le Front sandiniste qui a débouché dans la formation de l'organisation Misurasata. Alors Misurasata signifie Miskito, Sumo, Rama, sandinistes tous unis. Et les sandinistes ont déposé en fait dans Misurasata la confiance qu'ils allaient, eux, faire revendiquer l'indienneté du Nicaragua et qu'au niveau national, allaient pouvoir représenter ces Indiens.
Qu'est-ce qu'elle est devenue, Misurasata, maintenant ça fait plus que 2 ans après la victoire des sandinistes?
Alors, au tout début, Misurasata s'est surtout dédié à faire des recherches sur ce qu'avaient été les Miskito auparavant, redécouvrir des danses, redécouvrir certaines traditions des Indiens. Et le Front sandiniste ont poussé Stedman Fagot, un des leaders, à prendre la force dans cette organisation. En même temps, il a été membre du gouvernement, donc pas de la junte du gouvernement, mais du conseil du gouvernement actuel, donc sandiniste. Fagot a commencé à faire un travail de leader très profond. Tout de suite, ils ont eu passablement d'adhérents, donc sur cette côte atlantique. Et puis, les gens... Mais assez rapidement, on a senti dans Misurasata que les leaders de cette organisation et les gens même s'opposaient plutôt au Front sandiniste, au lieu de s'unir à eux, comme dit le nom de l'organisation. Alors, Fagot est une personnalité qu'on pourrait même dire charismatique. Quand il parle, il est très fascinant. Et pour les Miskito et les indigènes, encore beaucoup plus que pour nous. Nous, des fois, on trouve ça un petit peu exagéré. Mais en fait, on peut bien dire qu'il avait une force charismatique sur les masses et que c'est grâce à lui que Misurasata a gagné énormément de force dans les régions de la côte atlantique. C'est après à peu près une année que l'organisation commence à avoir des problèmes parce qu'on découvre que Fagot avait été un membre de la police secrète de Somoza et il est mis en prison. Au moment où Fagot est mis en prison, on voit une tentative de soublévation des gens de la côte atlantique. Ils refusent d'envoyer leurs enfants à l'école. Ils refusent également de se faire vacciner. C'est alors que le Front sandiniste décide de libérer de nouveau Stedman Fagot. Et à ce moment-là, Fagot fuit en Honduras. Et disons qu'à partir de ce moment-là, Fagot, depuis le Honduras, commence à faire une campagne anti-somoziste tout à fait claire.
Et sandiniste.
Anti-sandiniste, oui, contre les sandinistes, donc contre le communisme, etc. Et il appelle même des Miskito à fuir de l'autre côté de la frontière. On suppose que plus ou moins 2000 Miskito ont fui donc du côté de l'Honduras à cette époque-là. Ces Miskito qui ont fui sont arrivés dans des camps là-bas et la plupart ont été engagés dans des camps somosistes et ont été entraînés militairement. Tout ceci pour préparer une invasion au Nicaragua qui permettrait de séparer une frange du Nicaragua et appeler à l'aide les Américains pour pénétrer au Nicaragua. Oui, il faut dire que le Front sandiniste a eu un grand espoir dans cette côte atlantique et encore maintenant un grand espoir et aussi culturellement. Nous voyons, par exemple, Luis Mejía Godoy a fait une chanson pour la côte atlantique qu'ils appelaient ou qu'ils appellent le géant qui se réveille. On va écouter cette chanson maintenant.
Alors, avant d'écouter cette chanson, je vous rappelle que vous pouvez nous téléphoner. Nous vous demandons de téléphoner pendant qu'il y a de la musique et pas pendant qu'on parle, parce que c'est trop compliqué pour nous de répondre au téléphone pendant qu'on discute. Nous vous redonnons notre numéro de téléphone. C'est indicatif pour Genève 023 20 01 93. Si vous avez donc des questions à poser, ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se dit sur l'antenne, vous pouvez nous téléphoner. On écoute cette chanson maintenant.
Aïe, aïe, aïe! Pero nada se quedó, solo quedó el duradero residuo de las lenguas, piquito sumo y el rama que junto al criollo se quedó, donde no hubo ciudades ni templos ceremoniales, quedó solamente se quedó la yuca y el pejibaye, quedó entre blasfemias y rezos del inglés y del español. Un país distinto al mío nació en mi propio corazón.
Un gigante que despierte la costa, un gigante que ya nada detiene. Un gigante que despierte la costa, un gigante que ya nada detiene. Ala, 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 ala.
Se metió en nuestras venas y nació este son.
Ala, 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 ala
voici la traduction. Ces terres ont vu passer le miel, l'or, le jade. Tout n'a fait que passer, mais rien n'y est resté. Pourtant, reste comme unique vestige durable les langues, le miskito, sumo et le rama et le criollo. Là où il n'y a jamais eu de temple, resta seulement la yuca, le peyiwai, entre blasphème et prière de l'anglais et de l'espagnol. Un pays différent au mien est né dans mon propre cœur. La côte est un géant qui se réveille, un géant que plus personne n'arrêtera. La côte atlantique, multiraciale, multilingue, multifacétique, semi-aquatique, verte de partout, la côte atlantique s'est mise dans nos veines. Elle est née à travers cette chanson.
Cette chanson, elle reflète bien, je pense, l'idée que les sandinistes aimeraient se faire de la côte atlantique. Mais bon, comme on a pu le voir, il y a peut-être pas mal de contradictions. Et le géant s'est peut-être retourné contre ceux qui voulaient le réveiller. Je ne sais pas. Mais on pourrait peut-être, avant d'aborder tous les problèmes des miskitos, de tout ce qui s'est passé ces derniers mois, tu pourrais peut-être encore nous raconter un petit peu dans quel projet tu étais inséré et un petit peu ce que tu faisais concrètement comme type de travail.
Bien, alors, nous étions à peu près une équipe de 20 personnes. On avait deux, trois techniciens agricoles, des médecins, des infirmières et des gens responsables du développement communal dont je faisais partie, moi. On arrivait donc on a touché 9 communautés et on avait 3 bases. Dans les 3 bases, on s'installait donc 5 personnes, quelquefois moins, quelquefois plus, de notre équipe s'installait dans les bases et depuis les bases, on partait dans les villages. Alors notre travail, c'était d'une part informer les gens sur la révolution sandiniste et écouter ce qu'ils en pensaient, quels étaient leurs problèmes et comment on aurait pu résoudre leurs problèmes. Alors on devait organiser par exemple les coopératives qui avaient déjà commencé à s'organiser et même quelques responsables de Procampo, une organisation qui est responsable de l'agriculture au Nicaragua, étaient passés par là, offrir de l'argent aux miskitos. En fait, c'était des prêts. Mais les miskitos n'avaient pas très bien compris que c'était des prêts. Ils s'étaient empressés de dépenser cet argent, ou bien ils avaient semé le maïs, et après ils avaient oublié de récolter le maïs, étant donné que le maïs n'était pas tellement important pour eux. Ils vivent surtout du riz, la plupart du temps, de ce qu'ils peuvent chasser, mais là il y a aussi le problème qu'ils n'ont plus, leurs fusils, on a dû leur retirer les fusils puisqu'ils sont sur une région frontière, et puis ça aurait été trop dangereux en cas d'attaque que ces miskitos aient des fusils parce qu'ils auraient pu se faire assassiner avec leurs propres fusils.
Quelle était la participation des gens justement au projet qui était donc proposé par le Front Sandiniste directement? Toi, tu étais envoyé directement par le Front Sandiniste.
On était envoyé directement par le Front Sandiniste.
Et vous étiez accompagné par des compañeros armés, par des gens de l'armée.
C'est-à-dire que dans toutes les communautés, pratiquement, il y avait des commandos, comme on appelait, qui étaient déjà installés auparavant. Et alors, on peut dire qu'il y avait déjà un petit travail de conscientisation qui avait été fait par ces compañeros. Mais par exemple, quand nous, on est arrivés, on a vu une très grande méfiance. Et par exemple, dans plusieurs communautés, les gens cachaient leurs animaux parce qu'ils pensaient que nous, comme on était communistes, on allait venir et puis leur confisquer leurs animaux, etc. Alors, ils les avaient cachés. Et petit à petit, on a vu apparaître des vaches, etc. Petit à petit, pour moi, ça prouve aussi qu'ils ont pris un peu de confiance en nous. Évidemment, un problème était aussi la langue. On ne pouvait pas bien parler. Nous, on ne savait pas le miskito. Avec le temps, on a aussi appris quelques mots. On n'a pas tous appris la langue, mais enfin, on a pu se débrouiller un peu. Sinon, on fonctionnait avec des traducteurs ou avec les gens qui parlaient espagnol, parce qu'il y avait quand même passablement de miskitos qui parlaient espagnol, ou en tout cas le comprenaient. Souvent, il refusait de le parler, mais il le comprenait.
Comment se passait la participation des gens? Par exemple, quand il y avait une réunion qui était convoquée, est-ce que tout le monde venait? Est-ce que certains venaient, pas d'autres? Comment est-ce que ça se passait?
Disons que les réunions du village, généralement, les hommes assistaient. On avait un peu de peine à faire assister les femmes. Mais avec le temps, même les femmes ont participé aux réunions. Ça dépendait un peu des communautés. Il y a des communautés où les gens répondaient très positivement. Et aussi par le travail communautaire, ils étaient intéressés à développer leur région. Et d'autres communautés comme Haïti, qui est juste à la limite, donc avec le département de Celaya, où on voit vraiment les gens, au début, n'assistaient pratiquement pas aux réunions qu'on organisait, nous, même essayer de boycotter. On a vraiment l'impression qu'il y avait une campagne de boycott face à nous qui s'était faite. Mais avec le temps, on a pu constater vraiment que les gens nous prenaient confiance et petit à petit répondaient à nos appels et voyaient quand même qu'il y avait des réponses positives, même si on aurait voulu en donner beaucoup plus. Parce que, par exemple, on était chargé de faire des magasins du peuple. Alors, ces magasins étaient constitués des quatre articles de base, du savon, de l'huile, du sel et du sucre qu'on vendait au même prix que l'on vendait à Managua. Et ceci nous permettait de gagner encore, donc de faire un bénéfice qui nous payait l'essence pour le transport. Alors tout au début, eux, ils pensaient que ces magasins étaient les nôtres. Et on a eu énormément de peine à leur faire comprendre que c'était en fait pour eux et que c'était eux qui petit à petit allaient devoir gérer ces magasins. Mais aujourd'hui, donc quand moi je suis partie, la plupart des coopératives avaient dû se charger de ces magasins et nous, on faisait que leur retirer l'argent et ils pouvaient faire des bénéfices même dans le village même, c'est-à-dire faire payer un tout petit peu plus cher et utiliser ce bénéfice pour la coopérative ou pour la communauté, pour construire une maison pour les malades, par exemple, ou un dispensaire, etc.
Quel était ton travail à toi, personnellement? Qu'est-ce que tu faisais?
Alors,
la journée?
Mon travail, c'était de faire le développement communal. Alors, en général, dans la journée, je voyais des gens du village, discutaient avec certaines personnes du village et je préparais des séances pour le soir parce qu'on se réunissait ou avec le CDS qui était le comité de base, c'était en fait la direction du village, ou bien je me réunissais avec les femmes, on essayait aussi de travailler avec les femmes, ou bien on faisait une réunion avec la coopérative, souvent les gens venaient nous demander conseils sur les coopératives, etc. Et en plus de ça, là où j'étais, je travaillais souvent dans le dispensaire. Donc, je faisais les injections, les piqûres. Et j'aidais aux médecins, donc, parce qu'il y avait énormément de gens. Parce que dans notre communauté, on avait la chance d'avoir... Donc, qui faisait partie aussi du projet, le seul médecin miskito de la région. Donc, de la région, le seul médecin miskito qui existait au Nicaragua, qui s'est d'ailleurs formé au Guatemala. Et puis, évidemment, les miskitos préféraient venir chez ce médecin. Ils venaient de très, très loin pour venir voir ce médecin parce qu'ils parlaient en miskito avec eux, ce qui n'empêchait pas que dans les autres communautés, les médecins qui étaient de langue...